Je voudrais dire quelques mots sur cet évangile que nous venons d'entendre de l'aveugle de Jéricho. Encore un miracle du Christ, une guérison. Comme dimanche dernier, nous avions entendu la guérison des 10 lépreux. Un seul avait rendu grâce, mais cette fois-ci, l'aveugle sait de rendre grâce, sait remercier. Tous ces miracles de Jésus, ils ont toujours comme fond le sens profond, c'est la... Voilà, Jésus vient dans le monde pour rendre à l'homme sa beauté primitive. Et sa beauté primitive suppose évidemment qu'il n'y a plus d'infirmité, qu'il n'y a pas de maladie, que tous les hommes et les femmes et les enfants sont rayonnants et en bonne santé, rayonnants de la gloire de Dieu, de la gloire du royaume des cieux. Des aveugles, il a dû sans doute en rencontrer beaucoup et en guérir un grand nombre. Les évangélistes citent certains de ces miracles, mais celui-ci, peut-être plus particulièrement, a un sens peut-être plus profond que celui que je viens d'énoncer à l'instant. Les trois évangélistes synoptiques en rendent compte. Le Luc que nous avons entendu, Marc, à peu près dans les mêmes termes, Marc nous donne le nom de cet aveugle. Il s'appelait Bartimée, c'est-à-dire le fils de Timée. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de voir dans quelles circonstances cela s'est passé. Ça s'est passé à la porte de Jéricho, où Jésus était déjà venu, certainement. Mais là, il s'est passé, deux des évangélistes nous disent que Jésus vient de leur annoncer que, voilà, on va monter à Jérusalem, le Fils de l'homme va souffrir et va mourir. Et donc, cette annonce de la Passion, les disciples ne comprennent absolument pas. Et ça leur glisse complètement dessus. Pour le troisième de ces évangélistes synoptiques, il rapporte, vous savez, cette petite querelle, discussion entre les deux frères, Jean et Jacques, qui sera le premier dans le royaume des cieux. Véritablement, qui montre qu'ils n'ont rien compris à ce que peut signifier le royaume des cieux. Alors Jésus, certainement, veut leur ouvrir les yeux, les yeux spirituels, les yeux de l'entendement profond, les yeux, comme je viens de dire dans cette prière, juste avant la lecture de l'Évangile, ouvre-nous les yeux de notre intelligence pour que nous comprenions ton message évangélique. Cela ne va pas de soi. Le message évangélique. Et là, plus particulièrement, il s'agit de s'ouvrir à l'Esprit Saint, à l'entendement profond. Il s'agit d'ouvrir notre cœur qui est comme celui des apôtres, c'est-à-dire ils ont beau avoir vécu en compagnie du Seigneur, ils n'ont pas encore reçu l'Esprit Saint en eux. Et voilà, ils sont encore dans une espèce de naïveté, d'enfance. Ils voient avec leurs yeux de chair, ils voient le monde tel que nous le voyons, et ne se doutent pas que derrière cela, il y a aussi à comprendre, à voir, et pourtant, si Dieu sait combien de fois Jésus leur a parlé du royaume des cieux, a essayé de leur ouvrir l'intelligence sur la compréhension de ce royaume des cieux, mais voilà, c'est tellement difficile à comprendre, c'est tellement éloigné finalement nos préoccupations, de notre vie, de notre entendement, de la façon dont nous portons nos cœurs et nos sentiments, notre intelligence, même quand elle est, nous avons la foi quand elle est croyante. Mais voilà, il faut aller plus loin. Il faut aller à cette lumière que dont Saint Jean nous parle. Voilà, il était la lumière. Il est venu dans le monde. Le monde ne l'a pas compris, le monde ne l'a pas reçu. Et c'est cette lumière, au fond, que, à travers ce miracle de la guérison d'un aveugle, lui qui va d'abord revoir la lumière que nous pouvons voir tous, mais lui aussi, il sera touché dans son cœur, puisque Jésus lui dira « Ta foi t'a sauvé ». Comme il avait dit, vous vous souvenez, au lépreux, le seul lépreux qui était revenu rendre gloire, le seul qui a été guéri finalement, même si les dix avaient guéri de leur maladie, sur leur peau, et que ça avait été attesté par les prêtres de service, mais le seul qui était revenu rendre grâce, celui-là, il avait été dans une compréhension beaucoup plus profonde, beaucoup plus intérieure. Et c'est pourquoi, à celui-là seulement, Jésus a dit « Ta foi t'a sauvé ». Comme il dit aussi à l'aveugle « Ta foi t'a sauvé ». Alors il faut demander sans cesse au Seigneur qu'il ouvre les yeux de notre cœur, qu'il nous donne l'esprit. On trouve dans ce petit passage de l'évangile de Luc le fondement de la prière chrétienne. La prière chrétienne, elle a deux aspects. Elle est une prière de demande et puis c'est une prière de louange. Et lorsque cet aveugle crie « Fils de David, aie pitié de moi !» Fils de David, c'est la façon dont qu'il utilise pour louer Dieu. Comme nous disons dans la prière de Jésus, « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu !» Voilà, c'est « Fils de David !» Parce que c'est la façon dont on nomme le Messie. Le Messie, il est « Fils de David !» C'est cela que, voilà, c'est de cette manière-là que l'on s'exprime. Fils de David, aie pitié de moi. Et ça, il ne va pas se lasser de le dire. Il ne va pas le dire une fois. Il va le dire autant de fois qu'il faudra pour que Jésus s'arrête dans son chemin. Vous avez entendu, malgré la foule qui va lui dire « tais-toi ». Comme nous, la foule de nos pensées nous dit sans cesse « mais laisse tomber, ne t'occupe pas de cela, occupe-toi plutôt de petites affaires du jour, de ce qui t'intéresse ». Voilà. Mais il insiste, voilà, c'est à cette image-là que nous devons nous référer lorsque nous prions cette prière de Jésus, ce « Seigneur Jésus, aie pitié de moi ». Aie pitié de moi, sans se lasser, toujours et toujours. Dans la liturgie, il y a ces deux mouvements, ce mouvement de louange et puis ce mouvement de demande, Kyrie eleison. Voilà, on l'a dit souvent, on l'a dit longuement à maintes reprises. Voilà, Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié, le mot en français n'est pas vraiment très, très juste. On devrait dire manifeste, je ne sais pas comment on pourrait le dire pour que ce soit simple, mais c'est ton amour que nous réclamons, que nous désirons. Notre cœur appelle l'amour de Dieu. Cette pitié, voilà, ce n'est pas la pitié que nous avons pour le mendiant à qui on donne 3 centimes ou 3 ou 2 euros. C'est l'amour. C'est tout simplement cela. C'est l'amour du Christ qui touche nos cœurs, qui est là constamment, mais ce sont nos cœurs qui sont quelquefois un peu difficiles à ouvrir et qui sont un petit peu réticents. Voilà, prière incessante, prière perpétuelle, cette prière qui purifie notre cœur. Car au fond, pour que l'Esprit vienne vraiment en nous, pour qu'il nous ouvre ses yeux spirituels, qui ne sont pas des yeux de chair, ça n'a rien à voir. Hein. Lorsque, à la fin de la liturgie, on va dire, on va chanter, le cœur va chanter, et vous aussi, chantez-le, nous avons vu la vraie lumière. Nous avons vu la vraie lumière, bien sûr pas avec nos yeux de chair. Avec nos yeux de chair, nous n'avons rien vu. Mais notre cœur a vu, notre cœur a été sensible, notre cœur a été touché par cette présence de l'Esprit-Saint qui nous révèle le Christ constamment. Le Christ nous envoie l'Esprit-Saint et l'Esprit-Saint nous révèle le Christ. Et c'est pour cela que nous rendons gloire à cela. Nous rendons gloire. Voilà, purifier notre cœur, c'est le mouvement essentiel de notre vie chrétienne, de notre vie d'ascèse. Ascèse, ça veut dire exercice, il faut s'exercer. C'est comme dans tous les arts, hein, au violon ou au piano, voilà, on fait des exercices, et la prière, on fait des exercices. La vie chrétienne, on fait des exercices. Et ces exercices, c'est quoi? C'est le jeûne, c'est la prière incessante. Il ne faut pas cesser de prier, il faut constamment être tourné vers le Seigneur. Et puis c'est aussi, et peut-être surtout, mais les deux premières choses permettent la troisième, et la troisième c'est la garde des pensées. Que nos pensées, vous savez, nos pensées, c'est un petit peu une espèce de bouillon de culture. Voilà, il y a un peu de tout là-dedans. Mais tout ça, ça reste pas que là, que dans le cerveau, ça descend dans le cœur. Et ça vient prendre sa place dans le cœur. Ça vient parasiter aussi. Et c'est pourquoi la garde des pensées est tellement importante, car si nous voulons que l'Esprit Saint puisse venir faire sa demeure en nous, comme nous le prions chaque fois que nous commençons un office, chaque fois que nous commençons quelque chose, nous nous concentrons sur le Seigneur, alors nous disons cette prière, viens, fais ta demeure en nous. Mais comment ferait-il sa demeure en nous si dans notre cœur il y a il y a plein de soucis? Tout à l'heure, on va célébrer la liturgie, on va célébrer l'Eucharistie, on va prier, le cœur va chanter, déposons tous les soucis de ce monde. Voilà, comment viendrait-il si nous ne déposons pas les soucis? Et c'est pourquoi, alors, nous serons comblés si vraiment nous déposons les soucis, c'est-à-dire voilà, les pensées, et que nous pourrons chanter à ce moment-là, nous avons vu la vraie lumière. Ô Christ, sois la gloire pour les siècles des siècles. Amen.